des Alpes-Maritimes GATSECA et en même temps Association Défense du site de Cossol. Et c'est à ce titre que nous intéressons beaucoup au devenir de tout ce secteur.
Donc le GATSECA, c'est une...
Un mouvement d'association défense des sites des Alpes-Maritimes.
D'accord. Et vous siégez à la commission des sites.
Monsieur Jean-Pierre Frazen, militant associatif dans différentes associations. Et en particulier, c'est que je suis inscrit.
Vous n'êtes pas inscrit. Voilà. Alors, si vous inscrivez, vous inscrivez dans plutôt ressources naturelles, commission eau, déchets, énergie renouvelable, risque naturel. Énergie renouvelable. Votre prénom, vous avez un frère qui travaille chez nous.
Je
ne
peux pas être responsable de ce truc-là. Ah, vous
c'est
celle
qui va où,
alors, vous êtes inscrite ici dans la énergie renouvelable.
Oui, voilà.
C'est ça. Ok.
Michel Leberge, je suis conseiller municipal à Aigle. Je suis ingénieur de formation.
Ok, vous êtes en énergie renouvelable. Oui. Parfaitement.
Jocelyn Paris, ingénieur au CNRS. Je représente l'Observatoire de la Côte d'Azur et nous sommes très sensibles, je professe à Calerne, à certaines pollutions, notamment la pollution lumineuse. C'est pourquoi j'animerai la sous-commission risques naturels, pollutions et autres nuisances.
Et nous nous connaissons puisque vous avez déjà participé à nos travaux.
Tout à fait.
Sonia Amiral de la CASA et je m'occupe plus particulièrement de l'énergie. Donc je dois être inscrite dans la sous-commission énergie renouvelable, je pense. Et de Natura 2000.
Non. Mais je vous inscris avec plaisir, en tous les cas. Très bien.
Bonjour, moi c'est Stéphane Lévesque, Office national des forêts. Peut-être que c'était inscrit Emmanuel Joyeux, je ne sais pas ce que.
Ah oui, je ne sais pas.
En tout cas, c'est Office national des forêts, l'unité technique des préalables de grâce. Et donc nous, on peut s'occuper, on s'intéresse aux risques et les énergies renouvelables aussi.
Mais bon, ni Emmanuel Joyeux, ni vous-même n'êtes inscrit, donc vous voulez vous mettre dans quelle commission?
A priori, c'est celle-ci que je devais dire.
Énergie renouvelable? Non, mais la sous-commission.
Ah, la sous-commission, je ne sais pas.
Alors, je vous les redis, vous avez ressources naturelles, risques naturels, énergie, eau et déchets, énergie renouvelable, recherche et technologie, risques naturels, pollution et autres nuisances.
Alors, les risques naturels.
Risques naturels. Alors, vous redites votre nom.
Stéphane Lévesque.
Et Emmanuel Joyeux ne vient pas, donc.
Pas aujourd'hui, en tout cas.
Je l'inscris aussi peut-être.
Ouais, si vous pouvez. Ouais.
Alors moi je ne suis pas inscrite non plus. Donc Catherine Lenormand, je travaille donc à EDF, la production hydroélectrique. Donc on a des aménagements dans le contour du futur du parc, du projet de parc. Donc,
Vous allez intéresser beaucoup de monde.
Donc voilà, on s'intéresse, et plus généralement, on s'intéresse aux démarches de parc. On a des partenariats avec notamment le parc du Verdon. Voilà. Donc, plus on est en amont, mieux c'est.
Ok. Alors vous voulez figurer dans quelle commission?
Notamment énergie renouvelable.
Énergie renouvelable, si l'on peut parler ainsi d'EDF.
La production hydroélectrique, en tout cas.
Exactement.
Monsieur. Elmerini Amine, Ariane. Donc.
Vous êtes inscrit dans la risque naturel, pollution et autres nuisances.
Exactement. Donc voilà, donc actuellement je suis responsable commercial dans la distribution. Je suis environnementaliste de formation et je suis habitant de Cigale.
C'est ça, vous êtes identifié comme habitant de Cigale. C'est très joli en plus, Cigale.
Merci.
Jean-Pierre Yenvarch, j'habite Pégomas, je suis ingénieur en retraite de l'aéronautique et je m'occupe plus particulièrement des de la qualité de l'eau, des déchets. J'appartiens au conseil de développement de Haute-Azur-Provence. Donc je figure, je crois, quelque part dans la commission eau, déchets et nuisances. Je m'occupe également des nuisances sonores générées par l'aéronautique, je suis bien placé pour le savoir, et qui touchent au développement de l'aéroport Cannes-Mandelieu, qui ne fait pas partie tout à fait d'ici, mais qui envoie ses avions vers chez vous. Voilà.
D'accord.
Derrière.
Si vous pouvez répéter votre nom,
monsieur. Monsieur Guinvarche.
Guinvarche, monsieur. Je ne vous ai pas trouvé.
Je suis breton et pas corse. Hein, donc, ça change un peu.
Moi, monsieur, j'ai un nom breton, Guéguen, Guéguen, on prononce en Bretagne, mais je suis à moitié corse, vous voyez, alors.
Ben vous avez les deux qualités, alors.
C'est gentil de le dire comme ça. Hein.
Ah, bien sûr, c'est un complément par rapport à moi, vous voyez. Très bien.
Souvent on me dit que c'est un grave défaut parce qu'on devient très têtu quand on est les
deux
à la fois.
Non, c'est une qualité ça.
Okay. Donc Dominique Torres, j'appartiens au conseil de développement du Haute-Azur-Provence.
Ok. Vous êtes marqué, effectivement, dans la commission principale.
Philippe Toutet, je suis ingénieur retraité. Je fais partie de l'association CourseGoule.com qui s'intéresse à la vie associative à Courseboule. Donc nous nous sommes répartis dans les différentes commissions. Je n'avais pas réfléchi à la sous-commission.
Et vous voulez vous mettre dans laquelle?
Ben, je pense qu'énergie renouvelable.
Ça, énergie renouvelable, ça me semble aussi.
C'est ça ou
on s'est déjà vu, monsieur, de toute façon. Voilà. On ne s'est pas déjà rencontrés.
À la première réunion, peut-être, à Gréolière.
Voilà. Oui.
Jean-Claude Redeau, association Appel Serrano. Je m'intéresse aux énergies renouvelables.
Voilà, une de mes administrées, très impliquée dans la vie locale.
Oui.
Ça y est, ça va, bon. C'est vachement sportif, hein, l'informatique, hein, on ne pensait pas, mais... Après, monsieur Bruno. Ah ben, voilà. Par rapport à moi, il est dans mon axe.
Bruno Bernard, éleveur à Saint-Vallier-le-Thier, représentant l'élevage au vin. Je suis membre de l'association des agriculteurs du parc. Et comme on s'est un peu répartis partout, je suis là dans cette commission.
Ok, il y en a d'autres qui parleront de l'agriculture et de l'élevage ailleurs. Alors,
voilà.
C'est ça. Madame.
Madame Jimenez Brigitte, j'appartiens donc au Spéléo Club de Cossol et à l'association Les Doigts Déglingués. Donc nous travaillons depuis une vingtaine d'années sur la protection du milieu souterrain, des eaux souterraines et de la qualité de l'eau dans les rivières. Voilà, donc j'interviens au niveau de la gestion des... Enfin, je voudrais, pardon, intervenir au niveau de la gestion des déchets et de l'eau, bien sûr.
Jiménez, non, je ne trouve pas.
Spéléo au club de Cossol.
Moi, sur ma liste, mais c'est pas grave, hein.
Oui, je sais, mais c'est... ça a été fait.
C'est avec un G ou avec un J?
G.
Bien.
Donc Michel Lacroix, je suis hydrogéologue, Université de Nice et conseiller municipal au Broc. Donc je dois être inscrit et alors la commission, bah, je sais pas, je pense que vous, c'est peut-être le mieux.
C'est moi qui dois vous dire que vous êtes inscrit.
Bah écoutez, disons qu'entre eau et énergie renouvelable, il peut y avoir comme des certains parallèles. Quoi. Donc,
commission d'eau.
Bon, alors je vous mets où?
Bah, eau.
Non. Alors redites-nous bien pour votre nom.
La Croix.
Après.
Moi je m'appelle Deltrul Guido.
Alors, je parle un tout petit peu plus fort, parce que nous on a le bruit du machin là. Qui
ouais, Deltrul Guido. Je dois être énergie renouvelable, je pense.
Oui, absolument.
Voilà. Bonjour, je m'appelle Catherine Tulane. Alors, j'habite dans la vallée du Haut-Estéron, à Garces. Et je crois que je suis inscrite sur la commission 2 pour l'eau et les déchets. Et voilà, je fais partie aussi de l'association Les Amis du Parc.
D'accord.
qui a été créée récemment pour depuis la,
donc,
la création de
cette
commission. Oui, eau et déchets.
Alors, je reprends votre nom.
Catherine Tulan.
Très bien.
Moi, je m'appelle Aline Copin. Et je suis aussi dans cette association des Amis du Parc. Et à ce titre, je voudrais choisir eau et déchets.
D'accord. Très bien. Mais vous êtes inscrite dans tous les cas.
Ah, merci.
Monsieur derrière.
Alors moi,
derrière. On va les oublier après.
Jean-Michel Graillat, je représente l'ADEME. Ah. Et je suis inscrit à la commission et pas dans une sous-commission.
Exact. Très bien.
Alex Vincent, je suis chargé de mission énergie au Collège de Provence. Et donc, je pense que la commission énergie ouverte.
Moi, Rémi Dubas, je travaille dans une société qui développe des projets éoliens avec les collectivités. Donc, je suis là pour éventuellement répondre à des questions qui sont posées. Des communes, des collectivités sur ce genre d'énergie, sachant que c'est évidemment des projets qui se traitent avec.
Ok, on se connaît.
Vous connaissez.
Bonjour, Pierre Philippe, la mairie de Grévaulières. Je suis élu à la mairie de Grévaulières. J'étais inscrit à la commission numéro 2 et je ne savais pas qu'il y avait particulièrement des sous-commissions.
Ah oui.
Donc, s'il faut absolument prendre une sous-commission, je vous disais là.
Présenterons ensuite l'articulation des sous-commissions.
Oui,
d'accord. Monsieur
Claude Pinferrier, retraité depuis le 1er janvier, ingénieur génie et procédé. J'étais confronté toute ma carrière au problème d'eau, de déchets et d'économie d'énergie. Et en principe, j'ai dû choisir eau et déchets.
Oui.
Diego Arias, je suis aussi dans les Amis du Parc. L'association des Amis du Parc, je suis paysan boulanger et je voudrais être dans la sous-commission eau et déchets aussi.
Ok, on les refera effectivement, on les refera après.
Je ne sais pas si je suis inscrit déjà.
Oui, oui,
ouais.
Absolument.
Ben Pot Nicolas, je ne sais pas si vous m'appelez, je suis consultant chimiste analyticien spécialisé dans l'eau, sol, air et déchets. Vous m'appelez ? Vous m'avez peut-être, ça va être étonnant, mais au nom de Denise Médina.
Exactement. Exactement. C'est le changement de situation.
Voilà. C'est inscrit sur le nom de Denise Médina.
Absolument. C'est un coming up ou quoi?
C'est mon nom d'artiste.
L'Embre ici, Michel. Vous devez me trouver en dessous, Médina.
Oui, c'est voilà. Ça.
J'aime bien les préciser.
Décidément.
Alors moi, je suis professeur dans le secondaire. Et je représente l'association protection du patrimoine au Barnois, de Bar-sur-Loup.
Parce que là, vous êtes sec, enfin, il y a juste votre nom.
Voilà,
pas trop...
protection du patrimoine au Barnois, de Bar-sur-Loup, et qualité de l'eau et déchets.
Ah, vous étiez dans l'énergie renouvelable, c'est pas grave.
Mais
on les refera.
Ça m'intéresse, mais faire
un bien sûr.
Bonjour, Claire Valmis, conseil général, direction de l'écologie. Je représente Monsieur Cyril Moreau, qui est mon sous-directeur ingénierie et expertise environnementale. Je suis donc technicienne au service déchets et je pense qu'il y aura une personne qui devrait venir l'eau et les déchets et l'autre sur les énergies renouvelables. Mais je ne sais pas encore.
C'est pas grave.
Alors moi, c'est Claire Bouillot, du SMET, syndicat mixte d'élimination des déchets. Donc, je pense que je vais dans la sous-commission de déchets.
Très bien. C'est bon.
Marie-Pierre Abdelhamid, je suis chargée de mission environnement à la communauté de communes des Côtes d'Azur. Donc je m'occupe des déchets d'énergie et je pense plutôt à l'énergie renouvelable.
Oui. D'accord.
Valérie Aubert, assistante commerciale. Je souhaite assister à la sous-commission sur l'eau et déchets.
On marque habitante de Cipierre, c'est exact.
C'est ça.
Oui, de Cipierre. Donc vous connaissez bien le papa et la maman.
Marion Luigi, donc premier adjoint à Serrano. Je suis en charge de l'animation de la sous-commission eau et déchets.
Et il reste Raphaël.
Donc Raphaël Bouzine, consultant à la terre, donc vous pouvez
commission et sous-commission, qui est un petit peu le principe de la réunion d'aujourd'hui. Monsieur Guigain, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, c'est bon. Okay. J'étais un peu perturbé au moment
de la présentation. Donc, tout d'abord, mes excuses pour les problèmes de vidéoprojecteur. Donc, globalement, en faisant le tour de table, on se faisait du souci sur le fait qu'il manque de compétences très pointues, mais je crois qu'il n'en manque pas. Hein. Globalement, il y a des gens qui sont spécialistes de leur domaine. Aujourd'hui, on ne va pas forcément mobiliser vos compétences les plus fines. Aujourd'hui, on est sûr. Je vais vous présenter des premiers éléments sur chacune des trois thématiques qu'on a retenues pour cette commission, qui sont issues de l'étude de faisabilité qui a été réalisée sur le parc en 2004 et de différentes études qui ont été réalisées. C'est un premier travail. C'est un travail qui se présente pour chaque thématique avec un diagnostic atout faiblesse, opportunité, menace et une liste d'enjeux qui en découle. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'est dans un premier temps de valider globalement le diagnostic dans ses grands traits, c'est-à-dire les grands points forts, les grands points faibles, les grandes menaces qui pèsent sur le territoire, et de valider globalement la liste d'enjeux, des grands enjeux du territoire. Ça, c'est le travail qu'on va faire en commission aujourd'hui. Ensuite, cette commission va se subdiviser en trois sous-commissions. Une sous-commission par sous-thématique. Donc j'ai écrit ici un petit peu, j'avais mis des créneaux horaires en à peu près 50 minutes, maintenant un petit peu moins 45 minutes par sous-commission. Et ensuite, chaque sous-commission va se réunir entre aujourd'hui et la mi-avril pour approfondir le travail de diagnostic. C'est-à-dire, vous qui êtes spécialiste, vous allez pouvoir justement travailler de manière plus approfondie sur les caractéristiques du territoire, sur la thématique concernée, et du coup affiner les enjeux qui auront été travaillés dans un premier temps. Donc, on va attaquer la première partie, comme ça vous comprendrez très bien comment ça va se dérouler. Juste un point, en fin de réunion, j'avais fait terminer à 17h20 pour laisser 10 minutes pour que chacun puisse se rapprocher des animateurs des sous-commissions, puisque chaque sous-commission va avoir deux animateurs, des fois un seul, mais la plupart du temps deux animateurs, pour que chacun puisse se rapprocher de l'animateur de sa sous-commission et qu'il puisse voir avec lui la date qui va être fixée pour la réunion de la sous-commission et le lieu. Puisque dans la mesure où il y a 13 sous-commissions, on ne gère pas la logistique, chaque sous-commission s'autogère un petit peu. Les gens qui veulent participer à cette sous-thématique vont voir l'animateur et s'arrangent avec lui pour fixer une date et un lieu. Le rendu a été fixé pour le 10 avril. Donc pour le 10 avril, il faut vous ayez le temps de travailler sur un approfondissement du diagnostic à partir de vos compétences spécifiques et un affinement des enjeux. Donc vous verrez, pour chaque thématique, il y a deux diapositives. La diapositive à tout fait parce que c'est une menace comme je vous le disais, et une liste d'enjeux. On est resté sur un premier travail un petit peu général volontairement pour laisser de l'espace, pour vous laisser de l'espace, pour pouvoir travailler. Donc, je vais faire une première lecture pour la thématique eau, déchets, assainissement, des atouts, faiblesses, opportunités, menaces. Et puis, on va faire ouvrir un premier débat dessus. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas d'approfondir, comme je disais, le diagnostic, c'est plus de valider si, globalement, les grands points forts, points faibles sont listés ici. Ensuite, ça sera à ceux qui vont s'investir dans la commission de reprendre, le relais et s'il y a lieu d'approfondir. Il y a une autre méthode qui a été rédigée pour guider un petit peu le travail des sous-commissions. Avec vos contacts, on vous l'enverra par mail, donc vous verrez exactement ce qu'on attend du travail de sous-commission. Donc sur la thématique de l'eau, des déchets, de l'assainissement, globalement, on a tout, le territoire des Préalpes constitue un réservoir en eau potable du littoral qui est à protéger. La qualité des eaux superficielles est globalement bonne. 5 déchetteries sont localisées sur le territoire. Et donc on a un nombre d'habitants par déchetterie qui est inférieur à la moyenne régionale. Il existe une unité de compostage à Letigné, il n'y a pas de décharge sur le territoire et il y a eu l'adoption du plan départemental d'élimination des déchets des ménages et assimilés. En faiblesse, donc, il y a une gestion de l'assainissement qui est améliorée, ainsi que la gestion des déchets qui est améliorée, notamment la collecte sélective qui est incomplète. Il y a l'absence de centre de tri sur le territoire. Il y a la sensibilité des eaux souterraines aux pollutions d'origine bactériologique du fait de la nature des aquifères karstiques, l'infiltration des eaux rapides, donc tendance à une sensibilité plus forte. Et certains tronçons des rivières du territoire sont inaptes à l'usage de la baignade du fait de l'impact des rejets de stations d'épuration. Donc on fait le lien entre assainissement avec les qualités d'infrastructure d'assainissement. En opportunité, il y a la présence d'acteurs intercommunaux qui interviennent déjà dans les thématiques du tri et de la valorisation des déchets. Donc le parc ne sera pas seul à intervenir sur ce domaine. Donc le parc pourrait se positionner en coordinateur des efforts de différents acteurs de l'eau et de l'assainissement sur son territoire. Et puis il y a l'aspect un petit peu symbolique de la thématique de l'eau qui est à la fois un symbole fort sur le territoire et un enjeu très fort en lien avec le littoral et qui peut être un thème de travail en commun qui peut mobiliser assez facilement un certain nombre d'acteurs. Sur les menaces, il y a la menace d'aggravation possible des pollutions des eaux dues aux usages et activités humaines, la multiplication des prélèvements d'eau, baisse des débits. Donc vous me direz tous ces éléments, soit tout de suite si c'est possible, soit dans les sous-commissions, si vous les validez ou pas. Parce qu'il y en a certains qui sont issus par exemple de l'enquête socio-professionnelle. Les personnes qui avaient souligné ces manquances n'étaient pas forcément des experts en la question. Donc là, aujourd'hui, l'idée c'est de justement critiquer ce document, valider ce qui est à valider, ajuster ce qui est à ajuster et insérer des nouveaux éléments s'il y a lieu. Et dernière menace, les situations inquiétantes du fait de la forte fréquentation de certains sites immédiats, donc en lien avec la pollution des eaux. Donc globalement, si on part tout d'abord sur la sous-thématique de l'eau uniquement, pour vous, le fait que le territoire soit un réservoir d'eau potable du littoral, ça vous semble... Est-ce que vous validez? Est-ce que globalement, sur la qualité des eaux, il y a des remarques sur qualité des eaux superficielles, qualité des eaux souterraines?
Et des informations à faire circuler au niveau des eaux souterraines, des informations à faire circuler auprès des habitants par l'intermédiaire des communes.
Et quel type d'informations?
De basique. De ne rien jeter dans les avennes, par exemple, parce que généralement, ce sont les spéléologues qui, parfois, avec d'autres acteurs, faisons les dépollutions des cavités, ou ça peut être aussi dans les rivières aussi, rivières souterraines, ou carrément dans des vallons, dans des ravins, ou ce qu'on appelle communément dans les canyons. Et de faire aussi faire en sorte que le milieu souterrain rentre dans le patrimoine du parc, peut-être naturel.
De toute façon, l'activité
pour la préservation de
sera
qualité.
Prise en compte, évidemment.
Oui, bien sûr.
Une
oui.
Activité de pleine nature. Hein,
oui, il y a les spéléologues, mais il y a aussi notre travail avec les scientifiques qui travaillent avec nous. Ça peut être ce qu'on appelle la biospéléologie, c'est-à-dire la préservation de l'animal cavernicole, parce qu'il est une faune, la faune cavernicole. Il peut y avoir aussi des partenariats avec des épogéologues, des karstologues, etc. Et donc il y a un certain nombre d'activités qui n'est pas que la pratique de la spéléologie.
Vous savez que dans la configuration d'un parc naturel régional, il existe, bien entendu, tous les éléments constitutifs et l'Assemblée délibérante, qui sont le syndicat mixte, et à côté, il y a le conseil scientifique, dans lequel, effectivement, il serait intéressant d'avoir des réflexions au niveau de toute la partie géologique souterraine du territoire, c'est sûr. Donc ça sera utile de figurer dans ce conseil de développement, le conseil scientifique.
Et là, juste pour revenir sur la méthode, on parle un peu, là, c'est déjà, si on parle déjà d'action, en fait. Dans un premier temps, parce que la dépôt suivante va justement nous amener plus vers les actions avec les enjeux. Dans un premier temps, je voudrais quand même qu'on valide le diagnostic et l'état des lieux du territoire. Est-ce que vous avez des remarques sur cet état des lieux par rapport à vos domaines spécifiques de thématiques, monsieur?
Sans rentrer dans ce que vous avez peut-être fait par la suite, je pense qu'au niveau de ce chapitre, sur cette page, est-ce que vous avez prévu une cartographie très claire des endroits où il y a des usines de traitement des eaux? On pourrait les marquer avec des points rouges, par exemple,
oui,
parce qu'elles sont réputées marcher tous bien.
Moi, je l'ai là.
J'en suis moins sûr. Donc, ça serait très bien de pouvoir avoir une cartographie régionale du domaine qu'on couvre, où on indique les endroits où on traite les eaux usées avec des points rouges.
Dans le même esprit que ce que vient de dire Jiménez, l'enduit de la Crosson, par exemple.
C'est Thibault qui m'a dit.
Entretenu par le Sicacil pour l'alimentation des villes jusqu'à Cannes.
Oui.
Et ils sont très attentifs à la qualité de l'eau au risque de pollution venant de surface. Mais en principe, ils font en sorte que l'eau soit correcte en arrivant à la coupe. Déjà,
pour rebondir sur ce que dit madame, c'est toute la notion de démarche en cours sur les périmètres de protection qui peut être à faire apparaître comme des opportunités, c'est notamment tout ce qui est protection des canaux vis-à-vis de l'alimentation en eau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de démarches en cours actuellement.
Et actuellement, il existe des périmètres de protection des sources, entendu, pour tout ce qui est captage avec le dispositif prévu par la loi sur l'eau, bien sûr, immédiat, rapproché,
éloigné.
Mais en ce qui les embute, j'ai pas l'impression qu'il y ait des dispositions en dehors de certains cas très précis.
Le SICASIL travaille sur l'embute de Cossol.
Voilà, mais en fait, réglementairement et légalement, l'outil n'est pas là. Moi, je voulais revenir une seconde là sur. Monsieur, vous avez fait une observation sur le positionnement des usines.
Oui.
Mais vous le voyez plutôt comme une menace, comme une faiblesse?
Moi, je pense que tous les... je défends la technologie, mais vous vous doutez, issu de l'aéronautique, je défends la technologie. Mais les usines de traitement des eaux, elles sont réputées bien fonctionner. Enfin, disons, il y a des contrôles, heureusement, de fait. Moi, je pense qu'au niveau de la protection, notamment des milieux souterrains, il est intéressant d'avoir quelque chose de très synthétique à l'œil, avec un repérage des endroits où se situent les zones de traitement des eaux. Mais... usées.
Est-ce que les équipements...
Alors oui, alors est-ce que c'est un plus à moins? Non, c'est une mise à, disons, c'est une connaissance du milieu. À tel endroit, il y a une usine de traitement des eaux usées. Bon, on la contrôle, mais il faut bien voir si, par ailleurs, en souterrain, il n'y a pas à cet endroit-là des sources qui passent, etc.
Ça permet
c'est de la prévention, Claire, disons, vous voyez.
Ça permet de savoir où est-ce qu'ils rejettent. Ça permet de savoir où est-ce qu'ils rejettent pour savoir quels sont les points sensibles à contrôler.
Et les usines de traitement des eaux rejetteraient?
Ah bah bien sûr. Ah bah
oui.
Elles
ne sont pas toutes parfaites. Mais
oui.
Elles ne sont pas toutes parfaites, les
unes. On n'accumule pas l'eau à l'infini.
D'une manière plus générale, dans les atouts et les faiblesses, c'est l'industrie. Les implantations industrielles ne sont pas identifiées, s'il y en a ou s'il n'y en a pas.
Ah oui, mais ça justement, dans le diagnostic, ça c'est... Parce que ces éléments que vous avez là sont issus non seulement du retour des 500 questionnaires envoyés aux socioprofessionnels, mais aussi du diagnostic qui est à l'origine de l'idée de faisabilité du parc et qui avait entre autres défini le périmètre, mais qui en avait fait aussi l'analyse. Et des sites industriels sur le périmètre que nous avons déterminé, c'est-à-dire que on s'est posé la question justement la dernière fois de la manière d'affiner le périmètre, parce que tant qu'on est dans le secteur du haut pays, ça pose pas beaucoup de problèmes. Mais c'est vrai qu'après, quand on arrive sur les franges sud notamment, c'est-à-dire Grasse, Bar-sur-Loup, et bien entendu après la communauté de communes de Côteaux d'Azur, avec les zones de Carros, etc., on se pose la question de savoir si on doit effectivement déterminer très précisément ce périmètre, de manière à sortir, peut-être pas les parties urbaines pour les villages anciens, mais en tous les cas les parties industrielles. Donc on s'exonère de cette problématique de l'industrie, quoi, en principe. Oui.
Oui, mais en complément à ce que vous dites, il y a des pollutions insidieuses, on le voit dans le cas de la pollution du Rhône par le Pilar Allen, qu'on n'imagine pas, donc la dispersion de certains éléments qui paraissent anodins, de même que l'utilisation qui est devenue pléthorique des pesticides, des herbicides par les jardiniers amateurs, peuvent poser, je pense, des problèmes au niveau de la qualité des eaux. Et ça, bon, on a tendance à avoir les grands problèmes et sous-estimer ces petits problèmes qui, mis ensemble, font que la quasi-totalité du territoire est devenue quasiment polluée par les produits. Alors, il n'y a pas trop d'agriculture, mais quand on prend en parallèle le cas des zones agricoles industrielles, elles sont polluées par tous les produits. Donc, il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là.
Ça serait domestique, entre guillemets, c'est-à-dire individuel. C'est pas...
individuel, et quand vous prenez les anciens transformateurs, en un minute, on s'en rend compte, à Pierre Allen, il y en a qui ont fui de droite et de gauche et qui ont pollué le Rhône au point que maintenant on a interdit la pêche pour éviter que les gens soient toxiques. Et ça paraît hallucinant.
Je pourrais
ajouter
quelque chose. Par rapport à ce qu'il a dit par rapport aux jardiniers, l'utilisation des pesticides par les jardiniers amateurs, ils polluent beaucoup plus que les agriculteurs. Et aussi, il ne faut pas oublier aussi les mairies qui font le désherbage sur les routes.
Oui.
Donc il y a possibilité, il y a des villes en France qui
qui ont fait la démarche d'utiliser des désherbants écologiques. Ça ne coûte pas plus cher que des désherbants qui volent. Donc, est-ce qu'on pourrait voir quelque chose
de l'information.
Avec les services techniques des municipalités.
Ils sont déjà dans une action.
Ça peut être une recommandation en tous les temps. Moi, pour compléter votre idée, monsieur, effectivement, en termes de ruissellement, on a identifié effectivement les déchetteries et on sait que les lixivia, à partir des déchetteries, doivent être aussi contrôlées parce que ça, c'est très, très agressif, évidemment, pour le milieu naturel.
Oui.
Sur les déchets,
Sur
les déchets, par rapport à la case d'opportunité.
Oui.
Présence d'acteurs intercommunaux, donc je voulais qu'on puisse rajouter le SMED qui gère le traitement, transport, transit des déchets sur 37 communes du périmètre et 4 déchetteries sur les 5. Et je pense que c'est le CIMEC, je ne sais pas si c'est le CIMEC,
hein, c'est à la fin.
SIDEC,
il y a le CIMEC.
CIMEC.
Ah oui.
SIDEC, un C à la fin.
Par ailleurs, il y a une autre unité de compostage à Carrosse.
Pour être complet, je pense qu'il faudrait rajouter qu'il y a le projet de création de l'usine de traitement des déchets qui sera sur la nappe phréatique.
Où ça?
Juste à côté du lac du Broc.
C'est un centre de valorisation organique. Donc,
moi personnellement, en tant que président de l'arbre, j'ai fait un article, ça fait 2 ans. Pour dire attention, gros problème, on est en fait sur une nappe phréatique.
Non, mais il n'y a aucun contact avec la nappe phréatique.
Et pourtant,
il y a toujours contact.
Un article d'il y a 2 jours.
Il faut expliquer le contexte. C'est un
nappe phréatique est aérienne, il faut le savoir.
C'est un centre de valorisation organique donc, qui sera. Les eaux internes seront collectées et traitées, tu m'arrêtes de dire bêtises. Tous les déchets rentrant sur ce site vont être séparés en deux parties. La partie fermentée cible partira en compost, qui devra respecter certaines normes pour une valorisation agronomique derrière. Et tous les déchets qui seront dits résidus secs ultimes, donc toute la partie fermentée cible et toute la partie valorisable, s'il reste des canettes, etc. à l'intérieur qui n'ont pas été triées par le tri sélectif des ménages, seront mis en balle et partiront vers un centre de stockage qui ira sur la commune de Massoin. Duquel il n'y aura quasiment aucun lixivia et aucun envol de déchets parce que les déchets seront mis sous balle et aucun biogaz sera produit parce qu'il n'y aura plus la fermentation.
Ça, c'est pour tout ce qui est bien dans le meilleur des mondes.
C'est un projet pilote sur le département qui est très, très important.
Oui, mais la réalité est tout autre puisque M. Sauty a parlé d'une zone de stockage. Et la zone de stockage, c'est quand même le président du conseil général, il sait de quoi il parle. Donc il faudra faire très attention. De toute façon, moi personnellement, avec mon association, on attaque le permis devant le théâtre. Donc déjà, il y a certains délais qui vont être un peu plus longs. Il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi ce projet-là, il y a aussi ce permis sur la commune du Broc, à moins de 50 mètres d'un lac naturel départemental. Voilà.
Alors bon, c'est vrai que c'est très intéressant comme débat technique. Hein. Moi, je ne veux pas entrer en pleine démocratie. Hein. Je suis bien loin de partager votre avis, ça c'est sûr. Cela dit, ça n'est pas dans le périmètre que nous avons établi pour le PNR. Hein, puisque voilà, le périmètre s'arrête sur les zones naturelles qui sont au-dessus des zones urbanisées. C'est pas prévu de descendre dans le lit du Var. Voilà, pour le moment, c'est comme ça.
Moi, j'avais 2 remarques à faire, donc une sur le CIMEC encore, parce que dans la partie faiblesse, vous dites que la gestion des déchets reste à améliorer par la collecte sélective. Le CIMEC a mis en place la collecte sélective de l'emballage.
Parce qu'en fait, l'étude date de 2004, donc c'est pour ça qu'on est là aussi pour actualiser.
Donc, effectivement, c'est à jour.
Vous avez 37 communes sur le périmètre qui ont la collecte sélective.
D'accord.
Donc, emballage ménager, verre et les non-emballages. Et les autres,
après, vous aurez le loisir dans la sous-commission d'aller plus dans le détail. Là, on est sur le principe. Je le déplace, je l'enlève en faiblesse, je le mets plutôt en atout. Et après, vous pourrez détailler parce que s'il y a 37 communes, ça veut dire qu'à l'instant, ils ne sont pas dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément complètement un atout, complètement une faiblesse, il faut pondérer un peu.
Globalement, c'est sur la semaine, la collectivité nous encadre.
Okay.
Et ensuite, par rapport au plan d'élimination des déchets. dans le plan départemental, donc le plan d'élimination des déchets ménagers. Et depuis, il y a la révision du plan qui a été lancée en juillet 2010 suite à une délibération du Conseil général. 2008. C'était le 10 juillet 2008. Suite à une délibération du Conseil général. Donc c'est en cours.
Ok. Alors encore, monsieur Philippe, monsieur
Raphaël. Rapidement, deux secondes simplement. Oui. C'est pour répondre aux deux jeunes femmes. Là, effectivement, l'usine de compostage, tout ce que vous voulez, dans la veille de la Seigne, on en a retiré une à cause de ça. Il faudrait éviter de choisir des sites où il y en a phréatique en dessous, ce serait pas mal.
Il n'y a pas de site dans le département.
Ah, ben s'il n'y a pas de site dans le département, on n'en fait pas.
Mais alors, vous laissez vos poubelles devant votre
porte. Non, il y a d'autres méthodes.
La règlement.
Je pense qu'on fait les sourds là-dessus. On fait les
je pense que c'est une question intéressante à discuter autour de la commission.
La réglementation impose le traitement sur chaque département.
Oui, je sais.
Oui, mais pas sur l'arrière-pays. Voilà, ce qu'il faudrait au moins protéger, c'est l'arrière-pays. L'arrière-pays, Grassois ou Niçois, ne doit pas être la poubelle de la Côte d'Azur. Et nous sommes avec des différents acteurs ici sur lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années. Il y a des dossiers très sérieux que nous avons traités.
Mais non, mais c'est peut-être pas tout à fait le débat. On en parlera dans la sous-commission parce que là, sinon, on va rentrer très vite dans un
débat polémique.
On arrive globalement à valider les éléments qu'on a vus.
C'est un débat qu'on n'arrivera pas à clore parce que il y a d'un côté des gens qui sont là, qui casse la tête pour trouver des solutions, puis des autres qui critiquent.
Ah non, il y a une solution alternative, c'est pas vrai ça.
Personne ne fait de proposition, mais c'est pas le débat. Alors on continue. Oui.
Dans les opportunités, l'idée de tram 2, c'est intéressant, mais est-ce que ça ne devrait pas être dans la commission 1 sur la biodiversité?
C'est l'eau, hein,
c'est aussi. C'est lié.
Oui, il y a des choses qui sont transversales, effectivement. On disait, on parlait de l'agriculture tout à l'heure, forcément, sur l'agriculture, on peut la trouver dans toutes les commissions, après tout.
Donc la deuxième remarque, c'était justement par rapport aux phytocides, aux engrais, etc., soit de l'agriculture, mais surtout des particuliers, des communes, ça serait peut-être intéressant que ça apparaisse dans les faiblesses, en plus de la pollution par l'assainissement.
Je l'ai mis dans les menaces. Utilisation de pesticides et produits polluants au niveau domestique aussi par la chimie. Mais après, on a vu grâce.
Pour revenir sur la problématique de l'assainissement, on avait abordé la problématique station d'épuration. Je pense qu'il faudra de la même façon être attentif sur l'assainissement non collectif, en gros les fosses septiques. Il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place et il faudra que le PNR soit particulièrement vigilant pour préserver le réservoir d'eau potable qui arrose toute la bande côtière.
Mais l'ALEMA prévoit la 2012 comme date butoir pour mettre en place soit des spanks, soit des dispositifs de
contrôle. Tout à fait, la réglementation est en train de se mettre en place.
Elle a été très hésitante, elle a été reportée plusieurs fois, mais apparemment 2012 est la date butoir. Deux ans plus.
On parlait d'une cartographie tout à l'heure, ce serait peut-être bien de mettre dans cette carte les projets. Il n'y a pas que le projet du Broc, il y en a eu d'autres, je crois. Il y en a qui ont été arrêtés par le tribunal administratif, mais après il y a eu des appels, je pense au Machefer, qui devait être par exemple mis à la Sarre. Et donc il y a la Lyonnaise qui a fait appel, donc ça c'est encore des projets qui sont en cours finalement.
Le parc a vocation donc, à donner des avis sur les projets d'administration.
Voilà, donc ce serait bien de savoir.
Pas encore, donc pour l'instant il faut les inscrire à minima dans le diagnostic. Dans la partie diagnostique de la charte, dire il y a tel et tel projet qui sont en cours, le parc, une fois créé, devra se positionner. Pour l'instant, la structure n'existe pas, il ne peut pas donner d'avis.
Voilà, mais moi je ne parle pas de ça, c'est faire une cartographie des différents projets pour savoir, pour prévenir un peu les gens, parce que si d'un côté il se crée un parc qui est quand même, un PNR est supposé respecter l'environnement, et d'un côté il y a des projets qui sont moins respectueux. Alors bon, il y a des gens qui disent qu'il n'y a jamais de place, mais bon, l'eau étant un fluide, elle descend toujours de l'amont vers l'aval. Il est évident que ces projets-là ne doivent pas être mis en amont, mais plutôt en aval.
Bien sûr. Alors, ce que vous appelez de vos voeux, ça s'appelle un plan de parc. Il y aura effectivement un document cartographique qui permettra, d'une manière thématique, à chaque fois, d'avoir ce type d'illustration. Absolument.
En fait, le plan de
parc accompagne la charte.
Il va accompagner la charte et va en fait être localiser un petit peu les enjeux qu'on aurait identifiés là, les enjeux, pour l'instant c'est un plat à l'écrit. La troisième commission thématique, donc là c'est la première troisième commission thématique, l'idée ça sera de les enjeux de les positionner sur le territoire. Si on estime que sur les 8 projets d'infrastructure, il y en a 4 qui peuvent être éventuellement problématiques, on peut les localiser. Et le parc aura étudié l'infrastructure. Après, la vie ne s'est pas dit que la vie sera négative ou positive. En tout cas, on peut prévoir déjà que le parc ait à se positionner sur les points.
Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'un parc aurait. Il ne faut pas que le parc se donne l'objet de dire j'accepte tout, mais comme on est dans un parc, on le fait bien. Normalement, tout projet doit être bien fait, même en dehors du parc. Mais par contre, parce que si on fait un parc, il y a certains d'un projet qui n'ont même pas lieu d'être dans le parc. C'est un peu, c'est dans cet esprit-là qu'il faut le voir.
Le parc donne un avis défavorable, le préfet décide si le projet voilà, se fait ou pas. Voilà, ça se passe comme ça.
A priori, le parc et sa charte, ce sont des outils d'aménagement. Mais aménagement, ça comporte deux volets. Ça comporte le principe de l'interdiction, même si le mot est un peu fort, d'un côté, et du développement de l'autre. Donc il faut trouver cet équilibre-là. Oui. C'est ça toute la difficulté d'avoir un parc qui sera viable et qui sera producteur de bons résultats, à la fois par rapport à ce que vous dites et à la fois parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent du parc justement de pouvoir se développer.
Oui. Et je ne suis pas sûr que tout le monde ait la même définition du mot développement.
On est là pour discuter.
C'est l'occasion sur une mission d'approfondir. Voilà. Là, monsieur au fond, vous vouliez dire quelque chose?
Non, moi, je tenais simplement à préciser que la réserve d'eau, elle n'est pas uniquement pour la bande littorale, c'est vraiment pour tout le pays. C'est déjà un point important. Quoi. Il faudrait arrêter de séparer la population sur la côte et puis l'arrière-pays derrière. Quoi.
Non, ce n'était pas une séparation, c'est simplement
c'est
une question de volume. Quoi.
Oui, non, mais
c'est une question de volume.
Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à considérer ça de cette manière-là. Quoi.
Oui,
vous avez parfaitement raison, c'est vrai qu'on dit.
Parce que l'enjeu majeur en termes de quantité, il est sur le littoral, mais effectivement, vous avez raison, l'eau nous fournit aussi le territoire.
C'est-à-dire, si on poussait votre raisonnement au bout, quoi, enfin notre assertion au bout, on s'en foutrait de polluer chez nous pourvu qu'on protège le littoral. Quoi, hein,
Exactement.
Oui, bien sûr.
Pardon. Ensuite, je voudrais quand même effectivement, pour rejoindre la personne qui a parlé tout à l'heure, en insistant sur l'aspect transversal de l'eau. Sur effectivement, on peut avoir la gestion de l'eau pour la baignade, pour l'eau potable, pour l'énergie. Ça fait quand même tout. Après, il y a le côté aussi érosion, puisque dans le glissement de terrain, vous allez avoir l'eau qui va avoir son influence. Le côté géomorphologie qui va être impacté par l'eau aussi. Donc il y a vraiment l'eau dans son ensemble. Donc systématiquement lié les déchets et l'eau, c'est pas forcément l'approche la plus...
J'y ajouterai, monsieur, aussi le côté agricole, parce que c'est une nécessité absolue pour la vie agricole.
Pour l'irrigation, effectivement.
L'irrigation, puis monsieur Bruno peut vous parler pour les bêtes aussi.
L'arrosage agricole, pour l'élevage, il faut l'eau, priorité. Quoi.
Par rapport aussi, vu que le parc va se créer, il va y avoir il y aura beaucoup plus de tourisme, de gens qui vont présenter le parc, donc on va avoir une prolifération de centres de tri sur le territoire. Donc pour réduire, je ne sais pas une solution d'avoir des centres de tri comme ça, sur des nappes phréatiques, sur je ne sais pas quoi. Donc il vaut mieux informer la population. C'est un parc, les gens ont la possibilité de faire du compostage, de leur parler aussi de privilégier la consommation locale qui réduit les déchets, le tri, donc voilà,
Mais de toute façon, il n'y aura pas d'augmentation des centres de tri. Hein.
C'est un enjeu sur la maîtrise de la production de déchets. Est-ce que sur le diagnostic, sur la qualité des eaux, est-ce que quelqu'un est expert dans ce domaine-là? Parce que je pense que ce serait bien d'avoir un point de vue un peu expert sur ce.
Il y a tellement de choses à dire. De toute façon, déjà, l'eau est pratiquement, contrairement à ce qu'on dit, ce qui est le moins contrôlé. Il y a la DAS qui fait sur certains AEP, quoi, alimentation d'eau potable, une analyse par an. Et bon, on peut pas, on en est au Moyen-Âge, là.
Écoutez, ça dépend du fonctionnement des réseaux.
Oui,
les réseaux qui sont en régie communale pure et dure, et évidemment, ça coûte énormément cher de faire ce type de contrôle, alors peut-être qu'ils le font moins souvent, mais les réseaux qui sont enfermés, leur gestionnaire est tenu dans le cahier des charges de le faire. Donc en principe, c'est fait. Hein.
Moi, oui, c'est fait, fait une analyse par an, celle que l'on reçoit, qui n'est même pas un bulletin d'analyse, mais juste un papier d'information sur la qualité de l'eau, où toujours ce qui est contrôlé n'est pas toujours très judicieux. À Valoris, on va contrôler les pesticides alors qu'il n'y a pas d'agriculteur. Et là où il y a des agriculteurs, on va contrôler les métaux lourds. Ouais, je vous en donne un exemple. C'est... Mais ça, ça n'a rien à voir là-dedans, on est hors sujet. Donc là, c'est,
beaucoup de parcs mettent en place des scies relevées sur les réseaux pour que
c'est un enjeu de
contrôle et de.
Mais quand même, les gestionnaires sérieux font un contrôle sérieux. Hein, ça, je vous garantis.
Oui, mais ce qu'on voit au quotidien, c'est toujours l'aspect de l'eau, le pH, c'est des petites choses. Tous les contrôles chers, les recherches de
l'eau, strepto et tout ça, c'est contrôlé.
Oui, mais c'est contrôle microbiologique, mais tous les contrôles chers, comme les recherches de pesticides. Ça, c'est pas trop cher encore, mais ça, c'est pas fait, c'est fait une fois par an.
Il y a l'Agence de l'eau qui fait quelques analyses et des bilans annuels, mais ils font plus des analyses sur les cours d'eau en aval, au milieu, dans les milieux urbains. Moi, j'ai eu là, cette année les résultats de l'Agence de l'eau dans les rivières. Ce que j'ai pu voir pour le loup, c'est qu'en amont, le loup est considéré comme propre, de bonne qualité pour l'ensemble des indicateurs. Il y a les matières en suspension, les nitrates, il y a beaucoup d'indicateurs. L'aval du loup, par contre, est qualité moyenne pour certains. Donc, bon, par corrélation, on peut dire
la balle du loup, ça partait de quand? Ça partait d'où?
La colle,
Barcelone.
Directement lié à la présence humaine. Hein.
Directement lié, et donc les conclusions disent aussi qu'il y a une évolution essentiellement d'origine assainissement individuel.
Et le taux de
urbanisation. Qu'en amont, c'est plutôt une grande corrélation. Peut-être dire que le reste, le haut cholestérol, c'est peut-être la même chose. Enfin, il y a quelques résultats dans cette question. Mais donc, un manque d'analyse en amont, c'est surtout en aval.
Enfin, en tous les cas, le rôle du parc sera effectivement de se positionner, si on le transcrit dans la charte au niveau de cette problématique, ça sera effectivement de se positionner là-dessus. Bon, ça ne sera pas la seule thématique, mais c'est une thématique suffisamment importante pour qu'effectivement, on puisse s'y pencher d'une manière très, très sérieuse.
Sur les décharges, on avait dit qu'il n'y a pas de décharge sur le territoire. Est-ce que vous confirmez? Est-ce qu'il y a des décharges peut-être plus ponctuelles? Je ne sais pas.
Sauvage, oui. Alors, nous avons au niveau du spéléoclub de Cossol et les Doigts Déglingués, on travaille depuis 15 ans sur un fichier des pollutions karstiques et en rivière. Donc on a un pointage GPS de toutes les pollutions que l'on a remarquées dans des cavités ou autres avec des descriptifs, etc. Et nous aimerions, parce qu'il y a déjà Natura 2000 ou des personnes de l'ONF qui ont travaillé sur des pollutions karstiques, et je les en remercie, avec le Conseil Général, etc. Donc ce serait bien qu'avec le parc naturel, on puisse aussi réaliser des dépollutions, pas forcément faites par les spéléologues, parce que c'est énormément de travail, et c'est un budget qui est assez énorme, y compris dans les rivières, hein, parce que nous enlevons aussi des choses que les gens jettent, hein, on connaît, hein, par les ponts, dans les ravins, que ce soit des voitures ou autres, enfin toutes sortes de choses que les gens se débarrassent de chez eux. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même des déchetteries qui sont mises à leur disposition, mais malgré ça, on en trouve, etc. Donc on a un fichier donc, sur toutes les communes des Alpes-Maritimes avec les pollutions karstiques que nous connaissons, bien sûr, et y compris dans les rivières, que l'on veut bien mettre à la disposition de certains acteurs du parc pour justement pouvoir travailler dessus.
Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire?
Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur les grands points, vraiment les grands points du diagnostic, ou est-ce qu'on passe à la liste d'enjeux pour voir un petit peu, en regard de ce qu'on vient de dire ici, rapidement, dans le conçoit, mais qui sera approfondi ensuite, on voit un peu on peut étudier un peu la liste des enjeux qu'on avait pré-identifiés. J'en ai déjà ajouté un, mais on va ajuster tout ça. Le premier enjeu, c'était la connaissance et le suivi des zones d'aquifères karstiques et la qualité des eaux souterraines, puisque qui dit aquifères karstiques dit sensibilité à la pollution, donc enjeu de connaissance et de suivi. Donc, les parcs mettent souvent en place des actions répondant à ce type d'enjeu. La préservation de la ressource en eau en qualité et en quantité, la surveillance de la qualité des eaux sur les sites de baignade du territoire, donc ça peut être aussi au-delà des sites de baignade du territoire, mais en tout cas, à minima sur cet enjeu humain, la maîtrise de la production de déchets, donc comme on disait tout à l'heure, l'organisation de la collecte, du tri et du recyclage des déchets, donc j'imagine qu'il faut pondérer un enjeu, parce qu'il y a déjà des choses qui sont en place, donc peut-être trouver comment le formuler pour que ce soit en accord avec ce qui existe déjà. Le soutien à une stratégie d'amélioration de l'assainissement collectif et non collectif. Et le dernier point, celui qu'on avait ajouté, c'est l'aspect transversal de l'eau, qui est un enjeu qu'on peut pointer là, mais qui sera plus sur la manière dont on va aborder les choses que vraiment un enjeu peut-être individuellement. Sur les 6 premiers enjeux, est-ce que globalement vous vous y retrouvez? Est-ce qu'il y a d'autres...
Est-ce que l'aspect éducation, sensibilisation...
Il est traité dans la commission numéro 1, mais on peut tout à fait prendre des notes.
Parce que moi, là, c'est le réservoir d'eau à protéger à la fois qualité et quantité. On peut aussi envisager d'informer sur des économies d'eau à faire au niveau de l'agriculture, chez les particuliers.
Informer les gens.
Pareil sur les déchets, parce qu'on a maîtrise la production de déchets qui, dans le cadre du parc, qui va certainement accueillir, enfin nous au niveau des parcs départementaux, qui accueille du public, donc qui dit une quantité de déchets sur l'arrière-pays supplémentaire à traiter, peut-être passer par la sensibilisation et la prévention, éventuellement le faire redescendre leurs déchets limés chez eux, pour que ça ne soit pas un coût supplémentaire au niveau des collectivités. Et mettre en place également, éventuellement, leur donner la possibilité éventuellement de trier sur le... Enfin, ça va être peut-être des gens qui vont les pique-niquer, après ça dépend des accès, etc., j'entends bien, hein, pour qu'ils puissent faire même le tri sélectif sur le...
Alors, c'est vrai,
sur site.
Ça réglera le problème.
Ça ne réglera pas le problème, mais ça permet de sensibiliser. C'est une action de communication. Il ne faut pas la solution.
Au niveau du Conseil général, il faudra qu'on examine la problématique départementale. Parce que c'est des chiffres descendants, il faudra bien écouter à un moment donné quelque part.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont surtout des populations du littoral. Enfin, du littoral qui vont monter produire des déchets, qui vont être à la charge de l'arrière-pays avec des coûts de transport supplémentaires en termes de véhicules. Alors que le particulier qui est monté, qui met sa poubelle qui la redescend, en volume, ça peut faire économiser des camions, des allers-retours. Bon, je reste entre guillemets. Je suis idéaliste, il ne faut pas.
De toute façon, il y a de la pédagogie à faire là-dessus, en tout cas pour éviter qu'il la laisse sur place au milieu de la forêt.
Au moins qu'il la jette au moins dans
la poubelle. Voilà, c'est ça. Madame Jiménez, parle beaucoup, Madame Jiménez.
Oui.
On a donné le temps de parole à personne. Hein, parce que...